Bonjour à toutes et à tous. Et encore une fois, pour ceux qui sont là pour une première fois, bienvenue dans notre église, bienvenue dans ces instants, cette célébration de Pâques, cette fête de Pâques. Et nous avons déjà eu l'occasion d'entendre, toute la Pâque a été résumée dans tout ce qu'on a entendu, dans chaque témoignage, dans chaque chant, dans ce quiz, dans toutes les prières qui sont élevées vers Dieu. La Pâque a été vraiment largement annoncée et c'est vraiment une joie et un plaisir. Mais pendant ces quelques instants, nous allons quand même, puisque quand même c'est le dimanche où nous célébrons la Pâque, nous allons nous rappeler de cet épisode qui nous est raconté dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20. Donc nous allons ouvrir l'Évangile pour lire cet épisode qui nous rassemble et qui est au cœur de la fête de la Pâque. Donc c'est l'Évangile de Jean au chapitre 20, versets 1 à 18. Jean 20, versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore sombre, obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Et en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Avez-vous déjà réfléchi, pensé à la beauté du matin ? Avez-vous déjà réfléchi à la beauté de ce qu'est le matin? C'est intéressant de s'arrêter sur la beauté d'un coucher de soleil, mais c'est aussi intéressant de s'arrêter sur ce que c'est que le matin. Alors que les forces de la nuit pèsent de tout leur poids sur le monde, alors que les forces de la nuit dominent sur toute chose pendant des heures et des heures, la nuit qui domine, avec la nuit, on a l'immobilisme, le monde qui ne fonctionne pas, rien qui se passe, la peur même, certains bruits la nuit nous font peur alors que le jour, ils ne nous font pas peur du tout. Avec la nuit, il y a aussi la lourdeur, la confusion. La nuit, on ne voit pas trop clair. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. La force des ténèbres, la force de la nuit. Et puis tout doucement, le jour se lève. Tout doucement, le jour se lève. Il y a d'abord l'aube qui commence, avec la lumière qui commence à dissiper les ténèbres. Et puis l'aurore, la lumière qui devient dorée, et tout doucement, les premiers rayons du soleil que l'on peut voir. Et tout doucement, avec l'arrivée du matin, la puissance des ténèbres recule. La puissance de la nuit recule et la vie commence à reprendre dans le monde. La journée commence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est content de voir que nos journées vont être plus longues. Eh bien, c'est la force du matin. Le matin est le moment où les ténèbres reculent et où la lumière commence à dominer, à régner, à conduire toutes choses. Et on sait aussi que le matin est aussi le moment où pour nous, on commence à sortir des maisons, à aller travailler, à discuter, à parler, à rire, alors que c'était le silence, l'agitation, la vie commence à venir. Ce qu'il y a de beau dans le matin, c'est que le matin signifie le renouvellement de toutes choses. Le matin signifie que tout est nouveau. La journée d'hier, elle est enterrée, elle n'est plus là, et quelque chose de nouveau commence à arriver. La journée d'hier ne reviendra plus jamais, on peut la mettre à la poubelle, mais tout à coup, un jour neuf naît, un jour tout frais, sans encore rien, tout vierge de problèmes, de difficultés, qui commence à naître. Il y a peut-être eu des échecs hier, il y a peut-être eu des erreurs hier, des conflits ou autres, mais c'était la journée d'hier, et un nouveau jour commence. La Bible dit que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Le matin, ce n'est pas rien. Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Chaque matin, Dieu fait quelque chose de nouveau. Et la Bible dit que parfois, il y a les pleurs le soir, mais le matin, il y a l'allégresse, la joie. Le matin apporte quelque chose de nouveau. Il y a énormément de poètes qui ont écrit sur le matin, notamment Victor Hugo. Vous connaissez notamment son poème que vous avez peut-être récité à l'école. « Demain, dès l'aube, je partirai, je sais que tu m'attends. » Et Victor Hugo a aussi écrit ceci au sujet justement du matin. Il a dit « Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. » Même la nuit la plus sombre, même la nuit qui dure très longtemps, prendra fin un jour et le soleil se lèvera. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous arrêter sur un matin. Le matin de Pâques. Un matin différent de tous les autres matins. C'est un matin qui est différent de tous les matins que le monde a connus avant. Et c'est un matin qui est différent de tous les matins qu'on verra jusqu'à la fin des temps. Plus jamais on ne verra un matin comme le matin de Pâques. Pour la simple et bonne raison que le matin de Pâques n'est pas juste un matin qui a fait passer d'un jour à un autre, c'est un matin qui a fait passer d'un monde à un autre. Le jour de Pâques, un ancien monde est passé et un monde nouveau est advenu. Le jour de Pâques, il y a une réalité qui a complètement été engloutie, qui a été enterrée, qui a été mise à la poubelle et il y a une nouvelle réalité qui a dominé. La réalité des ténèbres est passée à la poubelle et la réalité de la lumière et de la vie a dominé sur toute chose. C'est le matin différent de tous les autres matins. L'ancien monde est le monde qui précède la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce monde qui est passé à la poubelle. Alors bien sûr, c'était un monde où il y avait des nuages, il y avait des fleurs, il y avait des animaux. Bien sûr, c'était un monde comme le nôtre. Mais c'était un monde différent, cet ancien monde, parce que c'était un monde soumis aux forces des ténèbres. Un monde soumis aux forces et à la puissance du péché. Un monde où la majorité de l'humanité, une grosse majorité de l'humanité, était sans Dieu, sans espérance. Un monde où la majorité de l'humanité n'avait pas la possibilité de connaître Dieu, de connaître la vérité, de connaître qui était Dieu, un monde sans espérance, un monde où les gens n'avaient pas de moyens de connaître leur destination finale. Cet ancien monde, ce monde des ténèbres, ce monde où les ténèbres régnaient, c'est un monde où les hommes étaient enchaînés sans possibilité d'être délivrés. Un monde où les hommes étaient enchaînés dans toutes sortes de liens, d'angoisses, de prisons intérieures, sans connaître quelle était la clé par laquelle ils pourraient être délivrés et entrer dans la plénitude de la vie. La plénitude de la paix, la plénitude de la joie. Et la raison de l'état de cet ancien monde, c'est que c'était un monde sans médiateur entre Dieu et les hommes. Un monde sans sauveur. Un monde sans possibilité d'être pardonné de ses péchés une fois pour toutes. Un monde sans moyen certain d'accéder à la vie éternelle. Et ce monde a été englouti lors de l'apparition du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est entré dans l'histoire de l'humanité. Dans sa personne, il est Dieu qui rejoint les humains. Par sa vie, son message, il nous permet de connaître Dieu. Par sa mort, il nous permet d'être pardonnés de nos péchés, purifiés de toutes nos fautes. Et par sa résurrection, il nous ouvre le ciel. Par sa résurrection, il brise toutes les chaînes qui nous retiennent, tous les liens qui nous retiennent, tous les liens de ténèbres et de mort qui dominent sur nous, et il nous donne l'occasion d'entrer dans une nouvelle vie. En ressuscitant, Jésus a détruit la mort. Il a englouti la mort, dit la Bible. Il a englouti la mort, il a englouti la puissance de la mort, et il est entré dans une vie nouvelle. En ressuscitant, Jésus a détruit le diable, les œuvres du diable, la puissance du diable, l'autorité du diable. Et il nous a fait entrer dans sa vie. En ressuscitant, Jésus a créé un monde nouveau. Et désormais, dans ce monde nouveau, la clé que nous n'avions pas pour être libérés de toutes nos chaînes, elle nous est donnée. Elle est à disposition, comme dans un boîtier qu'on a sur le mur où on met toutes les clés. Il suffit d'ouvrir le boîtier et de prendre la clé pour être sauvé, pour être pardonné, pour être délivré de nos chaînes et de nos ténèbres. Désormais, nous pouvons être pardonnés de nos fautes et de nos péchés, de notre cœur amer, de toute notre déloyauté, de notre infidélité, de notre colère, de notre haine les uns par rapport aux autres. Nous pouvons être pardonnés, pouvons être libérés. Dans ce nouveau monde, les droits de Satan sur nos vies, sur les vies des humains, ont été anéantis. Lui qui est l'ennemi de nos âmes, qui cherche à nous rendre esclaves, à nous enfermer, à nous éteindre, à nous rendre ennemis les uns des autres, a perdu le droit et l'autorité qu'il avait sur nos vies et sur nos âmes. Et dans ce nouveau monde, nous avons un accès direct à Dieu, qui est la source de toute paix, de toute joie, de toute vérité, la source de toute perfection, la source de tout amour. Nous avons un accès direct à ce Dieu qui s'offre totalement à nous. Tout cela, ce nouveau monde que Jésus a ouvert le matin de Pâques, peut nous remplir d'espérance. Pour le chrétien, il y a un mot qui peut être rayé du dictionnaire à tout jamais. On peut arracher la page du dictionnaire, c'est le mot désespoir. Pour le chrétien, le désespoir n'existe pas. La tristesse existe, la faiblesse existe, le doute, l'incompréhension, le péché, la peur, l'angoisse existent, mais le désespoir n'existe pas. Parce qu'il y a une victoire finale et définitive qui a été remportée par Jésus. La résurrection à la croix, c'est la source de la plus grande espérance du monde. C'est de savoir qu'il y a une victoire qui est la victoire sur toute chose négative du monde, sur tout obstacle, toute mort, toute problématique, toute tristesse, toute angoisse. Il y a une victoire sur toutes ces choses-là en finalité. Même si nous avons à vivre sur terre des difficultés, à franchir des obstacles, nous savons que la victoire de Jésus promet notre victoire à nous. Le matin de Pâques, Jésus a détruit le mot désespoir pour toujours. Le matin de Pâques, Jésus a tourné le dictionnaire au mot « dé » et il a arraché la page où le mot « désespoir » était inscrit. Et pour toujours, il a donné pour chaque être humain une source éternelle d'espérance et d'encouragement. Certainement que vous êtes là dans cette salle et que vous êtes juste centré sur votre quotidien, sur votre journée d'aujourd'hui, mais que vous n'imaginez pas combien le mot désespoir est puissant dans les cœurs et combien cette pensée du désespoir capture nos cœurs dans ce monde-ci. Jésus a détruit le désespoir et il nous a conduits vers le meilleur endroit qu'on puisse être, le meilleur endroit, le lieu le plus désirable. Il nous a ouvert l'accès à ce lieu désirable, le lieu de la présence de Dieu. Il nous a ouvert l'accès à la présence de Dieu, source de toute paix, de toute joie, de toute vérité, afin que nous puissions demeurer dans sa présence. En réalité, Jésus n'est pas seulement ressuscité, la Bible dit que Jésus est la résurrection. Il est ressuscité, mais il est la résurrection lui-même. Il dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra jamais ». Celui qui croit en moi ne sera jamais l'objet de la mort, l'objet du diable, mais il vivra pour toujours. Celui qui croit en moi vivra pour toujours. Voilà ce qu'on devrait dire au JT de 19h ce soir. Voici ce dont les gens ont besoin d'entendre à Jumet, à Dampremis, à Mons. On a besoin d'entendre cette parole de Jésus. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Parce que je suis la résurrection et la vie. Je suis celui qui donne la vie éternelle. Alors tout cela pourrait paraître être un slogan. On pourrait se dire c'est un slogan. Et pourtant, c'est ce que des chrétiens croient depuis 2000 ans. Des dizaines de milliers de chrétiens qui croient cela. Et comme Chloé nous l'a expliqué tout à l'heure, ces gens étaient prêts à mourir pour cette vérité. Il y a eu des martyrs à n'en plus finir, tellement ils étaient convaincus que cette réalité était là. Jamais on n'a trouvé le corps de Jésus. Jamais personne n'a pu contester ce tombeau vide. Ils étaient prêts à risquer leur vie, à partir loin pour annoncer cette résurrection, parce que ce message était un message puissant et fort. La foi, l'espérance des chrétiens vient de la réalité de la croix. Alors aujourd'hui, on peut toujours avoir un rigolo qui écrit un petit livre pour dire « Mais vous savez, on n'est pas tout à fait sûr, on ne croit pas trop. » Mais vous avez vu le nombre d'écrits, de manuscrits que nous avons du temps de Jésus, 24 000. 24 000 écrits qui attestent que Jésus est vraiment paru dans le monde, qu'il a vraiment été crucifié et que jamais on n'a pu trouver son corps et que des dizaines de milliers de gens ont cru en ce Jésus. Ce n'est pas juste de l'ordre du slogan, c'est la vérité. Jésus a inauguré un monde nouveau. Alors on pourrait dire, vous pourriez dire, nous pourrions dire que c'est un peu un slogan parce que le monde dans lequel on vit n'est pas un monde très différent du monde d'avant. Ce qui est vrai. Le monde n'a pas beaucoup changé. Il y a tout le temps autant de souffrances, de guerres, de pleurs, de craintes. Il y a toujours les mêmes choses. Et certains diraient même que le monde est de plus en plus laid. Et ils ont raison. Le monde est de plus en plus laid. Alors pourquoi est-ce que ce monde est comme cela si Jésus a inauguré un nouveau monde? Comment ça se fait qu'on est dans ce marasme si Jésus, lors de la résurrection, a inauguré un nouveau monde? La première raison, c'est que le monde que Jésus a inauguré, ça concerne davantage la réalité spirituelle. Ce que Jésus a fait a des effets sur le plan spirituel. C'est-à-dire que ce que Jésus a fait, ça crée un monde nouveau sur les plans des relations entre Dieu et l'homme. Jésus a modifié pour toujours les relations entre Dieu et l'homme. Il a modifié les relations entre l'homme et lui-même, entre l'homme et son péché, entre l'homme et l'éternité. Jésus a changé les rapports entre l'homme et Dieu. Il a réconcilié l'homme et Dieu. Il a permis à l'homme d'être pardonné de ses péchés, de sa culpabilité. Il a ouvert la porte à l'éternité. Alors ça ne change rien concrètement à ce monde, mais ça veut dire que spirituellement, dans nos cœurs, il y a un monde nouveau qui est possible parce qu'il est ressuscité. Et puis deuxièmement, si nous voulons que ce monde nouveau que Jésus a fait puisse se matérialiser dans notre monde concret, ça nous demande une démarche. Ça nous demande une démarche. C'est d'accueillir le message de Christ et d'accueillir la réalité de sa mort et de sa résurrection. La Bible appelle ça, il y a une expression dans la Bible, qu'on appelle « naître de nouveau ». Naître de nouveau, c'est entrer dans la vie nouvelle en croyant. Lorsqu'un humain entend et voit parler de la croix de Jésus, de la résurrection de Jésus, qu'il entend cette parole-là, qu'il entend cette vérité-là, et qu'il l'accepte dans son cœur, lorsqu'un humain croit pleinement que Jésus est ce qu'il a dit qu'il était, lorsqu'un humain croit que Jésus a vraiment été à la croix pour ses péchés, il naît de nouveau selon la Bible. Il devient une nouvelle personne parce que Dieu le change de l'intérieur. Et vous avez entendu tout à l'heure le témoignage de Romane qui disait « J'ai passé des heures et des heures à lire et je n'étais plus la même personne ». C'est ce qu'on appelle « naître de nouveau » dans la Bible. Je reconnais le message de la croix, je reconnais mes péchés, je reconnais mes fautes et je m'engage à la suite de celui qui m'a appelé. Je m'engage à la suite de Jésus. Pas à la suite des protestants, à la suite des catholiques, à la suite de tel pasteur, de tel curé, mais à la suite de Jésus lui-même. Je crois son message, je crois ce qu'il a dit et je lui donne ma vie. Je lui donne ma vie. Je lui fais cadeau de ma vie. Je lui abandonne ma vie pour vivre désormais selon sa volonté. Eh bien, lorsqu'une personne vit cela, elle passe de l'ancien monde au nouveau monde. Et bien plus, la Bible dit que lorsqu'une personne croit en Jésus et lui donne sa vie, eh bien cette personne va devenir une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un appartient à Jésus, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Notre ancien moi est passé et nous devenons une nouvelle personne. Pourquoi ? Parce que Dieu nous donne un nouveau cœur. Dieu nous donne un nouveau cœur. Il y a un ancien cœur que nous avions, un cœur qui était marqué par l'indifférence vis-à-vis de Dieu. Je veux vivre ma vie, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, Seigneur, je veux vivre ma vie. Un cœur qui était marqué par la rébellion contre la loi de Dieu. Je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même parce que ça me fait plaisir. Un cœur marqué par l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Un cœur marqué par la haine vis-à-vis de Dieu. Parfois même la haine vis-à-vis des autres. Eh bien, ce cœur-là, à la nouvelle naissance, Dieu nous l'enlève et nous le remplace par un autre cœur. Un cœur qui aime plaire à Dieu, un cœur qui aime être en relation avec Dieu, un cœur qui aime écouter Dieu, un cœur qui veut se mettre au service des autres, un cœur qui veut prier, un cœur qui veut aimer, un cœur qui veut se réjouir, un cœur nouveau. En fait, lorsque nous naissons de nouveau, Dieu fait une chirurgie dans notre cœur. Et il enlève l'ancien cœur pour nous en donner un nouveau, un tout nouveau pour plaire à Dieu. Et ceci est la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Sachez une chose, personne n'entrera dans le royaume de Dieu parce qu'il a souvent fréquenté une église. Personne. Personne n'entrera dans le royaume de Dieu parce qu'il avait une Bible chez lui ou parce qu'il la lisait. Personne ne va entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il avait des chrétiens autour de lui. Personne ne va entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il trouvait intéressant le message de Jésus. Personne ne va entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il a écouté la petite messe le dimanche matin. Personne. Le seul moyen, dit Jésus, d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de naître de nouveau. C'est de lui donner nos vies, c'est de lui appartenir pleinement pour entrer dans un chemin nouveau. Il nous l'a ouvert, ce chemin. Mais désormais, nous sommes appelés à y entrer par la foi en Jésus, en croyant et en lui donnant nos vies. Combien sommes-nous dans cette pièce à avoir foulé les pieds de cette église sans jamais avoir donné notre vie à Jésus? C'est la pire des situations. C'est la pire des situations. Parce qu'à la fin, nous sommes juste des gens qui avons admiré un beau parquet, un beau... Combien sommes-nous ici à ne jamais avoir dit à Jésus, « Je te donne ma vie, je t'appartiens, je crois et je veux vivre avec toi. » Ce matin où Jésus est ressuscité, il nous a ouvert cette voie, ce chemin, pour que nous puissions vivre avec lui. Il nous a ouvert la voie pour être nous-mêmes ressuscités un jour et vivre éternellement dans sa présence. La Pâque, comme vous l'avez vu sur l'invitation, c'est bien plus qu'un lapin. C'est une résurrection. C'est un matin nouveau, un monde nouveau, un matin où le monde a été changé pour toujours. C'est un fait historique qui a changé la face de l'humanité. Mais c'est un événement aussi qui peut changer nos vies. Lorsque nous croyons le message de la croix, la résurrection victorieuse de Jésus, lorsque nous laissons nos vies à Jésus, eh bien nous pouvons entrer dans cette vie nouvelle. Et voyez ce que Jésus dit à Marie dans le verset 17. Il lui dit « Ne me touche pas, Marie, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » En d'autres termes, dans ce monde nouveau, ceux qui croient peuvent dire « C'est mon Dieu, le Dieu de Jésus, c'est mon Dieu, le Père de Jésus, c'est mon Dieu. » Ils peuvent pleinement devenir enfants de Dieu. Alors cet événement, il est fort, il est puissant, il est grandiose. Et même si on se moquait de nous parce qu'on le croit, on continuerait à le croire quand même. Et même si on disait, vous êtes un peu nigaud quand même. Hein. Croire que Jésus est sorti du tombeau, enfin... On continuerait à le croire quand même parce que c'est l'événement qui a changé nos vies. C'est l'événement qui a changé nos cœurs, nos pensées. Alors que cette résurrection, ce matin, puisse être aussi pour nous l'occasion de vivre le renouveau de Dieu. Quel que soit qui nous sommes, où nous en sommes, quel que soit notre état, que nous puissions vivre le renouveau de Dieu. Pour une personne, ça peut être naître de nouveau, donner sa vie à Christ. Et pour une autre personne, ça peut être partir sur un nouveau pied dans sa marche avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Parce qu'il est ressuscité, il renouvelle toute chose, il refait toute chose et je veux marcher à sa suite. La Bible nous dit que Jésus, le Christ, est l'étoile du matin. C'est l'étoile du matin qui doit se lever dans nos cœurs. Le matin. C'est dans ce matin que cette étoile du matin doit se lever dans nos cœurs pour conduire nos vies. Prions. Seigneur, merci parce que la résurrection est un événement qui fait toute chose nouvelle. C'est un fait historique, nous le confessons ensemble ce matin. Jésus n'était plus dans le tombeau. Il a vaincu la mort, il a vaincu la puissance de Satan, la puissance du diable. Il est sorti victorieux et il règne auprès de toi pour l'éternité d'où il intercède pour chacun de nous. Merci pour cela, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu permets. Nous voulons, Seigneur, te prier pour chacun de nous dans ce lieu. Tu nous connais les uns et les autres. Aide-nous et permets-nous de ne pas vivre cette Pâque de façon superficielle, mais d'en comprendre tout le sens et de pouvoir aussi entrer dans la démarche à laquelle tu nous appelles. Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs de la nouvelle naissance. Parle à nos cœurs du renouveau de toutes choses en Jésus. Parle à nos cœurs de ton amour. Parle à nos cœurs de ta vérité. Parle à nos cœurs de cette espérance éternelle. Parle à nos cœurs pour que chacun nous puissions vivre cette démarche devant toi. Nous prions vraiment, Seigneur, pour que personne ne se retrouve comme délaissé face à ce message, mais que chacun puisse tendre la main pour le prendre dans son cœur, que chacun puisse tendre la main pour le croire et que chacun puisse t'abandonner sa vie à toi et à toi seul. Merci Seigneur parce que tu agis au milieu de nous et merci parce que ton esprit nous conduit et nous dirige en toutes choses. Nous te glorifions, nous te louons en Jésus, le ressuscité. Amen.